savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
Tous les cinémas du monde, bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'interroge à 2 semaines de la cérémonie des Oscars sur la diversité à Hollywood et entre autres sur la représentation des Afro-Américains à l'écran. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
On se souvient de la polémique en 2016 avec le hashtag Oscars so white, Oscars si blanc. Quelle place pour les acteurs et actrices noirs? C'est la question qu'on se posait il y a 3 ans. Alors depuis, bien des choses ont bougé. Il y a eu Black Panther, Get Out, Sorry to Bother You cet été. 18 millions de recettes hein, pour un film qui en a coûté 3. Sans oublier le nouveau film de Barry Jenkins, oscarisé pour Moonlight et qui est en ce moment même dans les salles françaises, si Beale Street m'était compté. Alors est-on en train de vivre un moment charnière? Eh bien, pour en parler aujourd'hui, autour de cette table, Mehdi Derfoufi, vous êtes enseignant et chercheur en études post-coloniales. Christelle Ringuet, universitaire, spécialiste de la représentation des femmes dans le cinéma afro-américain. Vous êtes même en train de préparer une thèse sur ce sujet. Et Pierre Kra, historien, docteur en civilisation américaine, spécialisé dans la question des représentations raciales. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, je voudrais qu'on écoute l'actrice afro-américaine Viola Davis. C'était un entretien accordé à l'agence de presse espagnole EFE au moment de la sortie de Widows, les veuves de Steve McQueen. Dans ce film, elle joue la femme d'un truand qui va devoir, à la mort de son mari, organiser un braquage. Viola Davis.
I'm proudest of the fact of how the movie opens. With me kissing Liam Neeson.
Je suis si fière de la scène d'ouverture du film. Je suis au lit, j'embrasse Liam Neeson et c'est moi. Moi, avec mes cheveux naturels, ma peau sombre, mes 53 ans, il n'est pas mon propriétaire esclavagiste. Ce n'est pas mon macro, non, c'est mon mari. Souvent, les femmes de couleur au cinéma, ce sont des bonnes, des domestiques, et dans tous les cas, elles ont une peau bien plus blanche que la mienne. Donc je suis très fière de ça, de ce que fait Steve McQueen, c'est révolutionnaire. Et je suis sûre à 100% que vous ne verrez pas ça au cinéma 2 fois cette année, ni l'année prochaine, ni celle d'après, ou alors ce sera avec moi. Voilà, on reconnaît hein, le sens de l'humour de Viola Davis, mais aussi peut-être aussi sa colère, Christelle Ringuet, parce qu'effectivement c'est rarissime de voir ce genre de scène et ce genre de rôle au cinéma, dans le cinéma américain.
Alors, effectivement, le témoignage de Viola Davis est très fort, très, très, très puissant, parce qu'effectivement, jamais auparavant, on avait vu une femme, comme elle se décrit elle-même, une femme noire foncée de peau, aux cheveux naturels, à la caméra, embrasser amoureusement un homme blanc, sans être en fait reléguée au statut de maîtresse, au statut de prostituée ou tout simplement être une esclave. Là, Viola Davis est la femme légitime de cet homme blanc, interprété par Liam Neeson. Et ça, c'est vraiment, de la part de Steve McQueen, un statement, une affirmation forte. Comme Viola Davis, je pense, on ne verra pas de sitôt.
Et ce qui est encore plus étonnant hein, dans le cinéma américain, c'est que le personnage n'est pas racialisé. Pierre Kra.
Oui, tout à fait, pas racialisé dans le sens où il n'obéit pas, en tout cas dans son écriture à l'origine, à une définition archétypale. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans les catégories type, c'est-à-dire que ce n'est pas un rôle de noir, entre guillemets, c'est un rôle d'individu. Donc là, on a quelque chose d'assez novateur, et comme tu le disais, Christelle, on a aussi ce fait du baiser, extrêmement significatif et très symbolique.
Qui est un baiser très tendre et en même temps conjugal.
Tout à fait, Tout à fait, parce que c'était pas le cas jusqu'à il y a, on va dire, relativement récemment. Dans les années 30, en fait, il y a eu l'adoption d'un code d'autocensure cinématographique qu'on appelait le code ACE et qui proscrivait pas mal de choses, notamment les jurons, le fait de blasphémer dans les films, l'utilisation de substances illicites et les relations interraciales. Donc pendant très longtemps, ça a été un tabou ultime que de montrer que ce soit un homme ou une femme, un homme noir ou une femme blanche ou vice-versa. Ça a été pendant très 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 longtemps très compliqué à montrer. Il fallait prendre des chemins détournés. Même Sidney Poitier dans Devine qui vient dîner ce soir, on le baisait suggéré. Ouais, ouais, ouais. Et un an après, donc en 68, le code ACE disparaissait.
Donc et c'est pas pour autant qu'on verra beaucoup de baisers et de couples interraciaux dans le cinéma américain. Mehdi Derfoufi, la question qu'elle pose en fait Viola Davis, c'est la question de la représentation des corps noirs à l'écran et surtout de la représentation des corps des femmes noires.
Oui, tout à fait. Ben, j'ai envie de dire, dans le prolongement de ce que Pierre et Christelle soulignaient, que on n'a pas beaucoup avancé non plus dans la question de du couple interracial, par exemple. Ça reste presque un tabou quand même. Si là on en voit une représentation, le couple ne fonctionne pas. Il s'avère qu'il la trompait. Donc du coup, elle doit reconstruire sa vie à travers ce projet qui réunit différentes femmes de différentes origines. Et on voit que on a, contrairement au couple blanc, le couple interracial reste impossible. Il ne va pas au bout du film. Et ça, c'est. Je ne connais pas d'exemple en réalité. Il en existe peut-être.
Il y a le couple de Loving.
Le couple de Loving, oui. Mais dans le cinéma hollywoodien, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Cette idée que le couple puisse aller au bout et être équivalent au couple blanc. Ça, c'est quelque chose sur quoi on n'a pas vraiment avancé. Donc, évidemment, Steve McQueen, quand il met en scène ces femmes de différentes origines, il a en tête l'ensemble des codes cinématographiques qui sont associés à la question de la représentation raciale. Mais ce que j'ai trouvé intéressant particulièrement dans ce film, c'est justement la façon dont les femmes s'autonomisent par rapport à la nécessité de survivre. Elles s'autonomisent, elles construisent leur autonomie. Et ce rapport politique au genre, me semble-t-il, est quelque chose qu'on voit assez rarement, y compris dans les films réalisés par des cinéastes africains-américains, où ils restent confrontés à la nécessité de revaloriser la figure masculine, et où finalement, les femmes restent un petit peu les victimes de cette nécessité politique.
Alors justement, là on parlait un peu de malgré tout, d'un changement dans la représentation, peut-être aussi des corps féminins noirs à l'écran. Est-ce qu'on peut aussi voir le pendant côté masculin? Je pense notamment au nouveau film de Barry Jenkins, CBS Street m'était compté, où on voit, et c'est aussi rare, là pour le coup c'est un couple noir, hein, l'homme et la femme, mais ils s'embrassent entre-mêmes, il y a une représentation de la masculinité ou d'un corps noir à l'écran qui... justement aussi, n'est pas dans le cliché souvent, malheureusement, attribué aux hommes noirs. Le côté très masculin, très viril. Qu'en pensez-vous, Mehdi ?
Oui, alors, on parle souvent de... Et je pense qu'on y reviendra dans l'émission, sur la question de l'effet Obama. Il me semble que là, c'est peut-être, à mon sens, un des signes les plus remarquables de l'effet Obama. C'est la façon dont des figures masculines, à la fois virile mais douce, à la fois capable d'être violente quand il le faut, pour se défendre par exemple, ou défendre leur famille, et en même temps être capable d'amour, être capable de compassion, et être capable d'élever des enfants. Donc pour moi c'est une des évolutions les plus remarquables dans le cinéma africain-américain de ces dernières années.
Hollywood souffre d'une épidémie d'invisibilité, alors c'est pas moi qui le dis, ce sont des universitaires de Californie du Sud, c'était en 2016, donc ils ont travaillé sur un énorme corpus de films et de séries, et les résultats effectivement de leur étude sont assez effrayants. Moins de 3 personnages sur 10 dans le cinéma américain sont issus d'une minorité, et c'est rarement dans un premier rôle.
Ouais, c'est...
Pierre Kras.
Oui, c'est assez révélateur. Et au-delà, je pense, même de la question de la représentation numéraire, je crois qu'il faut aussi, c'est ce par quoi on a commencé, se poser la question de la substance de cette représentation. Certes, voilà, ce serait une avancée, en tout cas, d'essayer d'inclure un peu plus de diversité, je l'entends au sens anglophone du terme, notamment dans les castings, devant et derrière la caméra, etc., etc. Mais après, il faut aussi se poser la question de la, comme je le dis, de la substance, du fond. Représenter plus, oui, mais représenter mieux aussi, je pense que ça en fait partie. Et c'est, je rejoins ce que tu disais sur Mehdi, sur cette question de la, pas nécessairement de la qualité, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais sur le changement assez net qu'il y a eu par rapport à ça et par rapport à cette volonté de sortir d'une question du stéréotype, que ce soit sur le couple, sur la masculinité noire, sur les femmes noires également, comme ce que tu disais, Christelle, tout à l'heure. Donc c'est, je pense que les deux vont de pair, en fait.
Et justement, tous les trois, comment vous voyez, parce que là, on cite des chiffres de 2012, 2013, 2014, comment vous voyez cette émergence de films? Certains ont même pu parler d'une nouvelle vague afro-américaine, alors peut-être je vous vois un peu sceptique, Mehdi Derfoufi, mais en tout cas, il se passe quelque chose, et ce qui est doublé par le fait que souvent ce sont des films qui marchent très très bien au box-office. On pourrait parler de Black Panther, on pourrait parler de Get Out, bien sûr.
Oui, tout à fait. Alors, sceptique, pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que, quand on regarde un petit peu l'histoire du cinéma africain-américain, il n'y a pas vraiment de disparition et de réémergence. Les films continuent de se faire, continuent d'être réalisés, tournés, les acteurs et actrices de faire des films. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des périodes où Hollywood se rend compte qu'il y a moyen de faire de l'argent et donc décide d'investir un peu plus que d'habitude dans certains films, ce qui rend ces films-là et ces questions-là plus visibles, et en particulier à l'international et en particulier en France. Mais si on regarde les budgets de ces films, ils restent 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois inférieurs au budget moyen d'un film hollywoodien. Et ce qui intéresse les studios, c'est la possibilité aussi de pouvoir financer à peu de frais un film et de faire maximum de bénéfices.
Oui, mais en même temps, Black Panther, près de 1,5 milliard de recettes dans le monde, ça c'est énorme. Ça, est-ce que ça ne fait pas obligatoirement bouger les lignes ?
Il faut voir sur la durée. Aujourd'hui, aux États-Unis, le public africain-américain représente à peu près 20% du public du cinéma. L'industrie le sait, et donc sait qu'elle n'a pas réellement, fondamentalement besoin de ce public-là pour exister. Black Panther s'inscrit dans un projet plus global lié au film de super-héros,
mais quand même,
et à
il
la
a
conquête
fait...
d'un marché international.
Oui, mais Black Panther a fait un score mais bien
Absolument.
Supérieur à d'autres films de super-héros.
Mais
et notamment en Afrique,
voilà,
a constitué une sorte de gloire, de fierté, on va dire,
Absolument.
Presque continentale.
Absolument, je pense que mes collègues en diront plus là-dessus, mais c'est parce qu'il y a une volonté internationale, de conquête internationale des marchés internationaux, et en particulier le marché africain est en plein développement, et on le sait, les majors investissent, et les grands circuits investissent énormément ces dernières années en Afrique, et en particulier dans des salles de haute technologie. Donc, tout ça va ensemble.
Oui, effectivement, Black Panther est un film vraiment très intéressant à plusieurs niveaux, parce que d'une, il mettait en avant le corps noir, les noirs, et de deux, il mettait essentiellement en avant les femmes noires, parce que c'est un film, je ne le qualifierais pas de féministe, mais il n'en était pas trop loin.
Avec des personnages de guerrières, effectivement, qui défendent le roi et le royaume.
Exactement, les Dora Milaje, l'objet d'intérêt du roi, interprété par Lupita Nyong'o, une femme noire, forte, qui est un agent secret. Donc Black Panther à bien des niveaux était très intéressant parce qu'il a défrayé la chronique en mettant en avant d'une part des noirs, d'autre part des femmes noires. Et ça, c'était quelque chose c'est quelque chose de novateur, parce que c'est jamais auparavant dans le monde des Marvel, dans le monde du cinéma en général, cela n'avait été fait de la sorte. Si on veut parler de façon un petit peu plus académique, c'est un film qui aura, si on prenait le test de Bechdel par exemple, il a explosé.
Qui explique s'il y a des personnages qui existent réellement,
des personnages féminins qui existent à part entière, sans nécessairement dépendre de la vigueur masculine.
Et donc Black Panther passe le test de Bechdel ?
Pour moi, amplement. amplement. Donc oui, vraiment, c'est un film qui a défrayé la chronique et qui a, je pense, envoyé un message fort à Hollywood, disant que voilà, le public est prêt avoir autre chose à l'écran.
Qui plus est, avec des thématiques presque intellectualisant le conflit entre les pacifistes, si je puis dire, et les partisans d'une lutte armée. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi comme
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Il y a cette opposition qui est assez marquée, assez révélatrice. Donc entre une opposition du séparatisme, en tout cas nationalisme noir vu comme ça, qui était celle défendue par Malcolm X notamment, et en face une figure plus intégrationniste. Il y a aussi une thématique très intéressante qui est celle du rapport qu'entretiennent les États-Unis, en tout cas les Africains-Américains, vis-à-vis de l'Afrique. La façon dont ils perçoivent l'Afrique, c'est une Afrique assez fantasmée, qui est soumise à pas mal d'idées reçues également. Et je trouve ça très intéressant de voir la façon dont Killmonger, donc le méchant, qui est purement africain-américain, qui vient de la côte ouest, etc., la façon dont il se comporte une fois qu'il arrive au Wakanda. Je trouve ça très très intéressant et assez pertinent, ma foi, assez représentatif d'une certaine catégorie, en tout cas, de ce que peuvent penser les Africains-Américains de l'Afrique, de la façon dont ils la perçoivent.
On parlait des femmes noires devant la caméra, mais il y en a aussi beaucoup derrière, et entre autres Ava DuVernay, qui s'est vue confier, je crois que c'était le plus gros budget jamais confié à une femme afro-américaine, 100 millions de dollars pour faire un énorme film de science-fiction, un raccourci dans le temps.
Alors effectivement...
Ça, c'est encourageant.
C'est très encourageant. Alors, Ava DuVernay, c'est quelqu'un qui est vraiment très spécial. C'est une pionnière et elle est vraiment, elle est très chère à mon cœur parce que elle a fait énormément de choses pour les femmes dans le cinéma, dans le monde du cinéma. Et puis, elle continue. Ce que j'aime particulièrement avec Ava DuVernay, c'est que, alors, il y a eu Ava DuVernay pré-Selma, puisqu'elle est connue pour Selma, et puis il y a eu Ava DuVernay post-Selma.
Donc Selma, c'était son grand film historique.
Exactement, qu'il avait révélé au grand public et qui lui avait, selon moi, permis de trouver sa place à Hollywood. Alors le film n'a pas été récompensé comme il aurait dû l'être aux Oscars, mais ça lui a permis, en fait, d'être visible et aussi de s'imposer en disant « Je suis la personne à surveiller, je vais faire bouger les choses à Hollywood ». Pour la femme, pour les femmes, pour aussi les personnes issues des minorités ethniques. Elle est très impliquée dans tout ce qui concerne la question de la diversité et surtout la question de l'inclusivité. Donc en ça, Ava DuVernay est vraiment une personne à surveiller.
Elle est très soutenue aussi, je crois, par la communauté afro-américaine et entre autres par
Oprah Winfrey. Qui est de toute façon une pointure aux États-Unis, pas juste pour la communauté afro-américaine, mais dans le monde de l'audiovisuel états-unien, puisqu'elle a sa distribution qui s'appelle Oprah Network, quelque chose comme ça. Donc, Ava DuVernay bénéficie d'un soutien particulier et ça lui donne justement du poids, c'est-à-dire je pense qu'elle est là pour rester un bon moment, pour s'imposer dans le monde du cinéma. Elle a créé une maison de distribution qui s'appelle Arrêt. Elle a des soutiens financiers sérieux, solides. Pour moi, Ava DuVernay est quelqu'un à surveiller, aussi bien d'un point de vue filmique que d'un point de vue distribution-production.
Tous les cinémas du monde ont fait une petite pause musicale avec James Brown. C'est dans le ton de l'émission « Say it loud, I'm black and proud ».
Take you out. tous les cinémas du monde.
You got your toothbrush?
Check.
Do you have your cozy clothes?
Do they know I'm black?
Should they?
I ain't never seen you like this before, bro.
Meeting family and taking road trips.
So you guys coming up from the city?
Yeah, we're just heading up for the weekend.
Can I see your license, please?
He wasn't driving.
I didn't ask who was driving. I asked to see his ID.
So how long has this been going on, Miss Fang? We hired Georgina and Walter to help care for my parents. And they died.
Un extrait de Get Out de Jordan Peele, donc un jeune photographe part à la campagne. Il doit rencontrer pour la première fois les parents de sa petite amie. Et le week-end à la campagne va tourner à l'horreur. Donc on le sait, le genre de l'horreur colle très bien à la représentation justement de la question raciale.
Alors oui, d'autres genres aussi. Mais le genre de l'horreur ici, je pense, permet aussi
En tout cas, le cinéma de genre colle bien à la politique.
Oui, 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 tout à fait. D'autant que ça permet de faire passer des choses qui passeraient peut-être plus difficilement autrement. Parce qu'on se situe à la frontière entre le réalisme et le fantastique. Du coup, on va pouvoir dire des choses et montrer des choses aussi qui peuvent être perçues par le public de façon, disons, plus simple. Par exemple, moins confrontationnelle, si vous voulez. Dans Get Out, qui a été effectivement un énorme succès, ce qui a vraiment bien fonctionné, je trouve, c'est la façon de jouer sur les stéréotypes. On avait, si on veut rester dans le genre de l'horreur parodique, Scary Movie est aussi un film qui a eu beaucoup de succès et qui est aussi réalisé par un réalisateur africain-américain. Donc, ça ne vient pas de nulle part, Get Out. Et cette idée d'utiliser des codes parfaitement intégrés par toute une génération qui a été nourrie au cinéma, au slasher et aux parodies de slasher movies, donc n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est vraiment une stratégie, je pense, très bien pensée et qui a fonctionné au-delà des États-Unis, y compris en France où le film a reçu un accueil très très positif de la part de la jeunesse racisée. Donc, ce qui est important politiquement dans ce film, c'est la subtilité avec laquelle il va jouer sur le champ contre champ et problématiser et politiser cette question du champ contre champ. Puisque, à travers cette question du champ contre champ, qui regarde, qui est regardé, le corps noir objectifié, le regard blanc porté sur le corps noir, et on travaille dialectiquement, constamment dans le film, ce rapport-là, en montrant effectivement l'inégalité de ce rapport-là, sans essayer de faire un jeu d'inversion, comme on peut l'avoir par exemple dans des films comme Green Book, dont on parlait un petit peu avant l'émission, où on pense résoudre le problème en inversant simplement les positions.
Ici, on n'inverse pas les positions. Plutôt Green Book, qui est plutôt un scénario de réconciliation entre un chauffeur blanc raciste et l'homme qu'il transporte.
Oui, dans une sorte de fantasme de l'amitié interraciale qui va, en quelque sorte, faire comme si il pouvait ne plus y avoir
De rapport de domination.
De rapport de domination, alors qu'en réalité, bien entendu, ce n'est ni le cas, même dans le film, puisque on reste dans un rapport matériel.
Green Book, il faut juste le dire peut-être à nos auditeurs qui ne l'ont pas vu, un film de Peter Farrelly qui vient de sortir, où Viggo Mortensen effectivement joue le chauffeur, ça se passe dans les années 60 je crois, d'un artiste noir effectivement, qu'il va protéger dans sa tournée du sud des États-Unis.
Justement, est-ce que le succès de Get Out, et c'est une question que je vous pose à tous les trois, Pierre, Christelle et Mehdi, n'était pas lié au fait, enfin peut-être que je me trompe justement, mais est-ce que l'expérience raciale n'a jamais été montrée de façon aussi stupéfiante dans un film ?
À travers le prisme de l'horreur ou du genre, ou, oui. Alors, ça a été montré, mais comme vous le dites, de façon peut-être un peu moins frontale. Moi, à mon sens, le premier exemple qui me vient, donc il y en a forcément auparavant, mais ce serait Candyman, qui est un film qui date des années 90, qui... Moi, je trouve, dépeint assez bien ce qui se passe justement pour la population africaine-américaine, notamment dans les grands centres urbains. L'état de décrépitude avancé, le fait de ne plus croire en quoi que ce soit, La question également du manque de figures paternelles noires qui sont vues comme défaillantes, etc. Je pense pas que ce soit un hasard si le Candyman, donc et pour le coup là c'est vraiment la figure du boogeyman, donc le croque-mitaine assumé, c'est un personnage qui est un homme déjà, qui a, je vais pas spoiler pour les gens qui ne l'ont pas vu, mais grosso modo, c'est une résurgence aussi de ce qui s'est passé pendant l'époque de l'esclavage, où la masculinité noire, on essayait par tout un tas de pratiques, notamment la pratique du lynchage, la pratique de l'émasculation, etc. Et même après l'esclavage, hein, d'ailleurs, une fois que l'esclavage a été aboli en 1865, il y a eu énormément de campagnes de lynchage qui a eu lieu pendant très 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 longtemps, où ce qu'on a dit grosso modo aux Africains américains, c'est certes, vous n'êtes plus considérés comme des esclaves, mais vous n'êtes pas pour autant nos égaux, dans les États du Sud en tout cas. Donc on essaie de maintenir un certain ordre social. Et ça se répercute dans le Nord d'une autre façon, dans les États du Nord. Et je le trouve extrêmement intéressant par rapport à tout ça. Et pour revenir sur cette question justement de la masculinité noire et qui est redéfinie, si vous voulez, que ce soit dans Candyman, que ce soit dans le genre également, dans Get Out, dans une autre mesure également, un peu différemment, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un continuum en fait. C'est pas forcément une révolution en soi. Le film Get Out, c'est un ovni, clairement, que ce soit en termes de genre, parce qu'il est pas... Nous, on le considère en France, en tout cas, il a été vendu comme tel, comme un objet horrifique. Jordan Peele, j'ai lu une interview de lui il y a pas longtemps dans le Rolling Stone magazine, il est un peu, pas déçu, mais un peu amer par rapport au fait que l'on ne voit qu'un film d'horreur. Lui, il le considère vraiment à la croisée des chemins entre le thriller, l'horrifique, etc. Mais effectivement, oui, c'est un film qui s'inscrit dans un continuum, qui apporte une certaine nouveauté par rapport à tout ça. Le personnage, comme on le voit, je sais plus comment il s'appelle, Chris, voilà, c'est ça, le personnage de Chris dans Get Out, et ça n'est pas une figure supra-masculine, il n'est pas dans l'hyper-virilité comme on pouvait le voir dans les années 70, notamment tout un tas de films de la Blaxploitation. Il a une sensibilité artistique, voilà. Mais, oui, comme vous l'avez dit, c'est fait de façon... On montre le stéréotype qui est affilié, les stéréotypes, l'ensemble de stéréotypes qui sont affiliés à la masculinité, au noir en général aux États-Unis, dans la scène, qui est une scène qui a fait hurler de rire, mais elle est très dérangeante en soi, si vous la prenez avec un minimum de recul historique, dans la scène de la Garden Party. Vous avez tout un tas d'individus, blancs en l'occurrence, de la bonne société, qui accolent à Chris tous les stéréotypes raciaux que l'on peut voir aux États-Unis. Ah, voilà, est-ce que vous êtes un sportif? Est-ce que vous avez une sexualité débridée? Enfin, pas dit de cette façon-là, évidemment. Mais en ça, oui, là, pour le coup, de façon très, très frontale, ça, oui, c'est assez, à ma connaissance, en tout cas, c'est assez novateur. Ouais.
Vous êtes très intéressé par la série Atlanta.
Oui.
Est-ce que vous voyez des liens, justement, entre les deux, entre Get Out et Atlanta?
Alors, je pense qu'il y a une convergence des deux en ce qui concerne la rupture des tons, qui est assez nette, en fait. Dans Get Out, comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais trop à quel sens se vouer. Par moments, c'est une comédie, parce qu'il faut se rappeler que Jordan Peele, à la base, vient de la scène du stand-up, que c'est un comique, etc. Donc il y a des moments très comiques, d'autres qui sont beaucoup plus glaçants. On glisse un petit peu dans le fantastique, sans pour autant totalement y être. Et il y a un peu ça dans Atlanta, dans certains moments, où on est un petit peu désarçonné. La narration est très, très étrange. Enfin, on n'a pas l'habitude de voir ce type de narration-là, surtout au sein d'une série.
Et on bascule constamment entre le réalisme et quelque chose de plus fantasmatique.
Tout à fait.
Voire cauchemardesque.
Oui, pour certains épisodes, oui. Oui, on est entre le film social, on est pas forcément dans le fantastique stricto sensu, mais oui, il y a une gestion, une espèce de... On louvoie constamment entre les tons, et je trouve ça très intéressant, ouais.
Les leaders foufi.
Oui, Get Out, c'est quand même, par bien des aspects, un film que l'on peut tout à fait rapprocher des films dont nous parlions tout à l'heure et qui viennent de sortir, dans la mesure où il reprend les étapes de l'expérience du racisme, la confrontation avec un policier, la confrontation, comme le disait Pierre, avec les blancs et les stéréotypes qu'il renvoie, etc. Mais ce qui est intéressant, et peut-être c'est une des raisons qui rend le film efficace, c'est la façon dont l'idée d'histoire alternative est utilisée. On a beaucoup parlé théorie du complot, de alternate history, etc. Pour tourner ça en dérision, mais et je trouve que utilisé dans la fiction, ce sont des choses qui alimentent et donnent du pouvoir au contre-récit. Et c'est le cas dans Get Out.
Théories du complot, ce serait quoi, par exemple?
C'est dans Get Out, son ami, qui, en fait, résout l'affaire, parce qu'il est imprégné des théories du complot, etc. Il est imprégné de ce type de construction, et du coup, en réalité, c'est ce qui lui permet de décrypter ce qui est en train de se passer, et donc, lui, il résout l'affaire, et c'est lui qui voit la vérité.
Oui, comme on dit, les paranoïaques ont parfois raison.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un fond structurel. La paranoïa est alimentée par la perception qu'il y a une réalité de la construction du pouvoir qui nous échappe, qu'on n'arrive pas à expliquer. Et donc, on va construire, évidemment, on va faire une construction paranoïaque. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont le film utilise cela pour dire l'espace du fantastique, l'espace de l'histoire alternative, etc., est aussi un espace, et on le voit, par exemple, avec le livre Underground Railroad, là, qui est sorti aussi, c'est un espace
en train d'être adapté,
de construction d'un
de vous interrompre, que Barry Jenkins est en train d'adapter aussi.
Formidable.
Alors, je voudrais vous faire écouter un jeune acteur de 25 ans. Hein. Lui aussi, c'est dans son nouveau film, il représente une masculinité noire beaucoup plus douce que ce qu'on avait l'habitude de voir dans les années 70 ou 80 ou 90. Il s'appelle Stephen James. C'est la star du nouveau film, vous l'avez compris, de Barry Jenkins, si Beale Street pouvait parler. Donc, il joue Fonny, un jeune de Harlem. On est dans les années 70. Fonny est amoureux fou de Clementine, alias Tish. Ils sont sur le point d'avoir un enfant quand Fonny est accusé de viol, accusé injustement de viol. On va écouter un extrait du film et puis Stephen James, que j'ai rencontré à Paris il y a 2 semaines pour la promotion du film.
You ready for this?
I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens.
I'm yours in your mind and that's it.
Like you said, people are realizing it too. For me, watching this film for the first time.
Quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais jamais vu ça avant, jamais. Souvent, je trouve que la représentation des Noirs à l'écran est très limitée. On ne voit jamais ces gens. Ce sont des statistiques. Un Afro-Américain sur 5 sera passé par la case prison avant l'âge de 40 ans. Vous voyez? On les réduit à des chiffres.
We never get to show their humanity. We never get to show that they love people and they have people who love them back. We never get to show that they have families who care about them.
Mais on ne montre jamais leur humanité, qu'ils aiment et qu'ils ont des familles qui les aiment en retour. On ne voit jamais leur lutte entre les murs de la prison. Personne ne raconte ces histoires. Qu'on puisse raconter ça, porter ces mots de James Baldwin à l'écran, et que ce soit Barry Jenkins, l'un des cinéastes les plus doués de sa génération, qui le fasse, pour moi, c'est un triomphe. Après l'Oscar, il aurait pu faire n'importe quel film. Et qu'il choisisse de faire celui-là, c'est incroyable. C'est un triomphe. Filmer ce genre d'histoire, cette histoire d'amour entre deux Afro-Américains, on n'avait jamais vu ça avant à l'écran.
You know, for once, we're seeing this for the first time, this type of love that we've never ever gotten to see. It's uncharted territory.
Stephen James, l'acteur principal de Sibyl Street, pouvait parler. C'est très émouvant de l'entendre parce qu'il a 25 ans et on a l'impression, Pierre Krack, qu'il a attendu ce film toute sa vie.
Oui. Après, je connais pas forcément son background, ni ce qu'il a fait auparavant,
sa formation. Il a fait beaucoup de films d'action, beaucoup de séries.
D'accord. Oui, non, mais ce qu'il dit...
Il a joué dans Selma aussi, d'ailleurs. Ah. Un petit rôle.
Ce qu'il dit est très très juste. Enfin, moi, je trouve que c'est très très juste. Encore une fois, quand on considère l'histoire du cinéma américain sous un angle long et la représentation des Africains américains, des Africaines américaines également, des femmes, voilà, parce qu'il y a une question du couple ici, comme il le dit, qui est très rarement montrée sous des augures positives ou pas dans une optique de couple dysfonctionnel. Oui, c'est très très intéressant ce qu'il dit.
On n'avait jamais vu ça, même du temps de Spike Lee. Et est-ce que après un cinéma de genre, la Blaxploitation, ou un cinéma peut-être aussi de la colère, de montrer les ghettos, là maintenant il y a un cinéma de la, enfin, je sais pas si on peut parler de normalité, mais en tout cas non parce que c'est toujours.
Oui, qu'est-ce que la norme?
Qu'est-ce que la norme? Mais en tout cas de l'ordinaire peut-être aussi.
Oui, c'était un des combats aussi, je pense, de Black Panther, dans un autre registre, hein, tout à fait, parce que, bon, voilà, c'est pas forcément des individus ordinaires, on est dans le cadre du super-héros, donc il y a toute cette notion de fantastique, mais le fait de montrer, oui, des couples noirs qui aiment, qui élèvent leurs enfants, qui sont désireux d'avancer dans la vie, qui ne sont pas dysfonctionnels à proprement parler. Alors, de mémoire, je pense que, encore une fois, je vais prendre des grosses pincettes, mais de pas dire que c'est une révolution, mais c'est une nouveauté, et surtout, à l'aune, si on considère l'ensemble de l'histoire du cinéma, oui, c'est relativement nouveau, relativement récent, tout du moins. Et c'est très très intéressant ce qu'il dit.
Christelle ?
Alors, effectivement, pour moi, enfin, c'est ce genre de récit un petit peu alternatif du cinéma afro-américain sont très intéressants parce qu'ils nous proposent un regard différent auquel l'audience n'est pas habituée sur justement l'expérience afro-américaine. Comme le disait Pierre, le fait de montrer un couple noir, donc un couple, pas un couple mixte, c'est un couple noir, deux personnes foncées de peau, très amoureuses l'une de l'autre, cette femme est prête à tout pour sortir son futur mari de prison, ça ne semble pas être grand-chose et pourtant c'est un acte presque politique, selon moi, de la part de Barry Jenkins. Montrer ce que l'on appelle en anglais le black love à l'écran n'est pas nécessairement quelque chose auquel on est habitué. Et donc, que ce soit fait de la sorte, de façon aussi poétique, aussi belle qu'a pu le faire Barry Jenkins, je trouvais que c'était vraiment phénoménal.
Et on peut se dire aussi, ça rend très optimiste, parce qu'on se dit que s'il y a un appétit, justement, pour ce genre de film, ça va permettre des succès de box-office.
Puis aussi une plus grande visibilité aux acteurs et actrices qui sont justement impliqués dans ces projets. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'on sait que les acteurs afro-américains et les actrices afro-américaines, en général, sont mises en avant grâce au cinéma noir américain. Donc avec tous ces films-là, si on se penche tout simplement sur le film de Barry Jenkins, Moonlight, on peut observer qu'à la suite de Moonlight, les trois acteurs principaux ont pu accéder à des films à plus grand public. Devante Rhodes, je crois, dans pas mal de films d'action. L'acteur qui joue Chiron dans sa période adolescente est pareil à Le Vent en Poupe. Il est vraiment très demandé. Donc c'est vraiment... je suis contente que le cinéma afro-américain prenne de l'essor parce que ça donne la possibilité aux acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices afro-américains d'être un petit peu mis en avant et donc donner une visibilité, un peu plus de diversité à l'écran.
Et on pourrait parler aussi de la jeune actrice, la toute jeune actrice, je crois qu'elle a 20 ans, Amandla Stenberg, non, dans The Hate U Give, qui est presque devenue une figure politique hein, sur la scène américaine.
Alors effectivement, Amandla Stenberg fait une performance vraiment très forte.
Exactement. Elle a fait ce film, The Hate U Give, qui est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui a un peu le pied entre les deux communautés, hein, la communauté blanche, puisqu'elle va dans un lycée très chic, et puis sa famille dans le ghetto, et qui va être confrontée au meurtre par un policier de son meilleur ami afro-américain.
Oui, effectivement.
C'est vraiment un film Black Lives Matter.
Vous m'avez volé au téléphone.
Pardon, pardon.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment la mise en avant du mouvement Black Lives Matter. Et elle a délivré une performance très très forte. Très très forte.
Alors de la même façon qu'on parlait, ou pas d'ailleurs, de l'effet Obama, tout à l'heure, notamment avec vous, Mehdi, est-ce qu'on peut parler d'un effet Trump ? Je pense par exemple au dernier Spike Lee, prix du jury à Cannes. Est-ce que la présidence de Trump peut alors pousser enfin encore plus hein, peut-être des Afro-Américains à prendre la caméra?
Alors c'est vrai que dans le film de Spike Lee, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est la façon dont il s'efforce de revitaliser un petit peu cette idée de l'amitié interraciale qui, en particulier entre un juif qui se percevait pas comme juif et qui va prendre conscience de sa judéité, en tout cas en partie, en étant confronté au racisme que subissent les Noirs. Ça, c'est assez troublant parce que c'est vrai que jusque dans les années 50, avant l'émergence des luttes pour les droits civiques et d'une politique des identités qui va faire que au Black Panther va répondre une sorte de nationalisme juif américain qui va glisser progressivement vers le soutien à Israël inconditionnel, le sionisme politique, etc. Avant cela, il y avait une sorte d'imaginaire politique entre noirs et juifs qui aurait partagé par certains aspects une condition similaire et on peut être surpris de voir chez Spike Lee une tentative de revitalisation de cette idée-là finalement. Alors, est-ce que c'est un effet Trump ou pas? Peut-être.
C'est Black Klansman. Hein. Il cite Spike Lee dans le film. Enfin, il cite en image hein, les événements de Charlottesville, où un militant suprémaciste blanc avait foncé dans la foule et tué donc une manifestante antiraciste. Donc, clairement.
Mais en tout cas, la vraie question importante, c'est est-ce que, contrairement à ce qui s'est passé dans les années 80-90, où des cinéastes comme Carl Franklin, John Singleton, Spike Lee ont rencontré un petit succès avec leurs films, mais où finalement, il était toujours difficile de faire des films, y compris pour eux, malgré leurs succès commerciaux. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce que les réalisateurs et réalisatrices, qui sont rares quand même, qui accèdent à une visibilité médiatique, vont trouver la possibilité d'avoir une activité régulière. En ce qui concerne les acteurs et actrices, c'est un peu différent, parce que c'est des gens qui vont circuler dans le cinéma mainstream, et donc, comme Idriss Elba par exemple, et donc du coup, la situation est un petit peu différente. Mais pour ce qui est des réalisateurs et réalisatrices, c'est ça la vraie question.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, tous les grands espoirs des années 90, vous citiez Carl Franklin, les frères Hughes, John Singleton, tous ces gens-là ont fait des carrières finalement très courtes. À part Spike Lee, qui a apparemment une résistance et une endurance peu ordinaire.
Oui, mais malheureusement, on parlait des conditions économiques au début de l'émission. Je pense que la réalité, elle est toujours celle-là, quand même. Hein, en dépit de l'optimisme qu'on peut avoir par rapport à certains phénomènes qu'on va cibler, globalement, la situation n'a pas fondamentalement évolué. De la même manière, quand on parle de la période des race movies, bon, c'était quand même avant. La fin de la ségrégation et la période de l'intégration des films jusque des années 20 jusqu'aux années 50 qui étaient réalisés par des Africains-Américains pour un public d'Africains-Américains avec des histoires qui mettaient en scène des Africains-Américains. Donc on peut supposer, je connais très mal cette production, forcément difficilement accessible, mais on peut supposer qu'il y avait déjà des histoires de famille, des histoires normales dans ce type de film. Donc dire par exemple qu'avec Barry Jenkins on arrive à quelque chose qui n'avait jamais été vu dans le cinéma mainstream, que les Blancs regardent aussi.
Donc c'est ça en fait, c'est la question aussi des publics, les race movies, et c'était peut-être une forme de ghetto cinématographique, alors que là il y a peut-être une ouverture.
Alors j'emploierai pas le terme ghetto parce que c'était plutôt lié au développement de l'urbanisation des villes et au fait que les quartiers noirs se développaient, ségrégués, et donc il y a un marché qui s'était installé. Aujourd'hui, je dirais que l'enjeu économique représenté au-delà de la communauté africaine-américaine explique aussi le fait qu'on ait des productions, les productions de ces dernières années. Et il ne faut pas se limiter au cinéma, qui n'est qu'une petite partie de l'iceberg.
Il y a les séries, c'est ça ?
Parce qu'il y a les séries, parce qu'il y a les émissions télévisées, et on a vu combien les stars, en particulier masculines ou féminines, naviguaient entre la télévision, le cinéma et les séries. Donc, une série comme Luke Cage, par exemple, a quand même pas mal fait parler d'elle. On parlait d'Atlanta, etc. Donc, il y a tout un tas de productions qui vont bien au-delà du cinéma. Il y a aussi la littérature, il y a la musique, très important. Avec Sorry to Bother You, on voit aussi la façon dont l'activité militante politique des musiciens s'hybride avec l'activité cinématographique. Donc, et Spike Lee dans Do the Right Thing, c'était la même chose déjà. La musique jouait un rôle politique important. Donc, on a tendance à voir que ces films-là, mais en réalité, c'est une inscription dans une politique beaucoup plus vaste et qui ne peut être réduite au phénomène cinématographique. Ouais.
Donc, il y a des raisons d'espérer. Christelle Ringuet, Pierre Kras.
Je rebondis sur ce que tu disais justement entre la corrélation entre la musique et le cinéma. En fait, ce qu'il faut savoir, tu parlais tout à l'heure des race movies, donc une production cinématographique qui a été calibrée en amont, pensée pour un public africain-américain, qui reflète les réalités africaines-américaines du point de vue de réalisateurs africains-américains. Et ce qui s'est passé, c'est que un des plus gros succès, enfin les race movies d'ailleurs sont appelés ainsi en réaction, on a repris la terminologie des race records, donc des disques raciaux qui sont destinés pareil à un public africain-américain à l'origine. Et il y a un truc qui est très intéressant justement, c'est qu'un des plus gros succès de toute l'histoire du cinéma mondial, surtout américain là en l'occurrence, mais mondial aussi, c'est Birth of a Nation, qui date de 1915. Or, ce qu'il s'est passé, c'est
qu'aux États-Unis... C'est un des films les plus racistes de l'histoire du cinéma.
De l'histoire
du
cinéma.
Et par ailleurs, chef-d'œuvre de Griffiths.
Tout à fait. C'est pas antinomique d'employer tout ça. Révolutionnaire par toute sa mise en application de nouvelles techniques. Bon, je sais que Mehdi, t'aimes pas trop la terminologie de langage cinématographique. Bon, là, je l'emploie par
facilité.
Voilà, par convenance, on va dire. Mais aussi avec un fond extrêmement raciste, extrêmement agressif, qui contient des scènes de blackface, voilà, qui contient aussi des scènes assez dures quant à la question de l'intégration politique des Africains-Américains et leur accès à la citoyenneté. Et il y a un truc qui est très intéressant, justement, c'est une période qui est un peu malheureusement méconnue, mais dans les années 20, vous avez déjà, donc à cette époque, je vais juste terminer sur la question de Trump juste après, vous avez déjà dans les années 20, déjà en 1920-1921, un film d'un réalisateur africain-américain qui s'appelle Oscar Michaud, qui s'appelle Within Our Gates, et qui décrit justement avec un personnage principal féminin, qui décrit une certaine réalité économique, politique, sociale, etc. Et quant à vous dire si vraiment il y a eu un effet Trump, je pense que ça s'est décidé avant, en fait, légèrement avant. On le voit pour Get Out, quand Jordan Peele a dit qu'il a pensé, lui, il a commencé à réfléchir, à écrire son scénario déjà sous Obama, et essayer de tirer les leçons, de dire, certes, on a eu deux mandats, enfin c'était la fin du deuxième mandat d'un président africain-américain, mais qu'est-ce qui a changé fondamentalement sur les problématiques structurelles? Donc ça, je pense que l'ère Trump, c'est dans la continuité de la fin des deux mandats Obama.
Merci à tous les trois. Merci Pierre Kram, Mehdi Derfoufi, Christelle Ringuet. Quand est-ce qu'on pourrait lire votre thèse?
Alors,
sur la représentation.
La représentation.
Des femmes afro-américaines.
Alors ça, c'était mon sujet de mémoire. Ma thèse en soi parle des réalisatrices afro-américaines des années 60 à nos jours. Donc, je m'attarde sur le cas de Madeline Anderson jusqu'à Ava DuVernay, Dee Reese, les plus récentes, en passant par Julie Dash. Et je vais, du coup, je recherche le travail qui a été fait par le travail militant qui a été fait par ces réalisatrices pour donner une représentation nouvelle des femmes noires et des noirs américains d'un point de vue général. Donc, vous devrez patienter encore 2 ans. Donc, j'espère que d'ici là, vous ne m'aurez pas oublié. Voilà.
Et vous, Pierre et Mehdi, je crois que bientôt, un livre que vous avez coécrit va sortir.
Oui, c'est tout à fait, sur les questions de racisme, de représentation raciale dans les jeux vidéo.
Merci à tous les trois. On se quitte avec Nina Simone, Mississippi Goddam, une chanson de colère contre le racisme dans le sud des États-Unis. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Un grand merci à Lily Instinct du Festival de Belfort et à sa programmation 2018. Sur la représentation des Noirs dans le cinéma de genre. Sans elle, nous n'aurions pas pu faire cette émission. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Lequéré, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve dans une semaine dans les grands froids de l'Est au Festival de Berlin qui vient d'ouvrir ses portes. Et d'ici là, bonne semaine à tous. Show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last.